Le journal vous est présenté par Anne Fauquemberg.
Bonjour. Au moins 200 morts, plusieurs dizaines de milliers de déplacés. L'archipel des Philippines, toujours sous les eaux ce midi après le passage de la tempête tropicale Tembin. Sara Colosino a réussi à joindre un responsable de la Croix-Rouge sur place, compte rendu au début de ce journal. Les proches de la Française Sophie Petronin, enlevée il y a un an au Mali, toujours sans aucune de ses nouvelles. Une humanitaire de 72 ans, malade et a priori retenue par la branche d'Al-Qaïda dans le pays. Son neveu, Arnaud Granouillac, demande plus d'informations au Quai d'Orsay, nous l'entendrons. En cette période de Noël, le Secours catholique se félicite du grand nombre de bénévoles. En revanche, l'association caritative s'alarme de la chute des dons depuis 2 ans. Analyse à suivre du sociologue spécialiste de l'économie sociale et solidaire Jean-Louis Laville. Enfin, à 12h40, votre rendez-vous avec la face cachée du globe et Nabila Hamel. Les Philippines sont frappées chaque année en cette période de décembre par des intempéries, mais en cette fin 2017, la tempête tropicale Tembin aura été très violente. Tempête qui a frappé en particulier la grande île du sud de Mindanao, d'habitude épargnée. Bilan revu à la hausse ce matin. 200 personnes ont perdu la vie et il y a près de 150 disparus. Bonjour Sara Cosolino.
Bonjour.
Les secours sont toujours mobilisés ce midi.
Oui, plus d'un millier de maisons ont été détruites, en majorité dans le sud de l'archipel. La difficulté, c'est surtout de venir en aide sur des zones très différentes, comme l'explique Richard Gordon, chef des opérations de la Croix-Rouge sur place.
These are areas that are hard to come by. They are in the mountainside, they are in the rivers, and they are small.
Ce sont des zones difficiles d'accès, elles sont montagneuses, il y a beaucoup de rivières et des villages ont été inondés par le débordement de ces rivières. La terre gonflée d'eau est descendue des montagnes en créant des coulées de boue qui ont tué beaucoup de personnes d'un coup.
Sur place, près de 45 bénévoles et plusieurs dizaines de membres de l'équipe de la Croix-Rouge viennent en aide aux personnes évacuées. 55 000 personnes ont trouvé refuge dans des centres d'évacuation. Comme dans toutes les situations de crise, il faut établir des priorités.
L'eau potable est un véritable défi. Nous avons demandé des réserves d'eau. Une citerne est déjà arrivée et d'autres sont en chemin.
La Croix-Rouge a lancé un appel international aux dons. En fonction de l'argent récolté, les premières habitations pourraient être construites dans les 6 mois.
Merci Sara Colosino pour votre compte-rendu. Et puis un autre drame en deuil ce midi, les Philippines. 37 personnes ont probablement perdu la vie dans un incendie. Incendie survenu dans un centre commercial à Davao, la grande ville du sud du pays. En Chine, près de 30 ans après le massacre de la place Tiananmen à Pékin, une archive nationale britannique déclassifiée vient d'être rendue publique. Le document livre un témoignage terrifiant de la violence du massacre orchestré par l'armée chinoise entre le 15 avril et le 5 juin 1989. Mais surtout, ce document livre un nouveau bilan du nombre de victimes, bien loin de celui du régime communiste à l'époque, Marina Daras.
Les manifestations de juin 1989 sur la place Tiananmen restent un tabou pour le régime chinois qui affirmait juste après les faits que la répression des émeutes avait fait près de 200 morts chez les civils et plusieurs dizaines du côté des forces de l'ordre. Plus récemment, le régime parlait d'un millier de victimes. Mais d'après un câble diplomatique envoyé par l'ambassadeur britannique de l'époque, Alan Donald, un document qui a été récemment déclassifié, cette estimation serait presque 10 fois plus élevée que les chiffres communiqués par Pékin. Il y aurait donc eu près de 10 000 morts, place Tiananmen. L'ambassadeur britannique rapporte la violence de cette nuit du 3 au 4 juin où les blindés de l'armée chinoise ont ouvert le feu sur la foule d'étudiants qui occupaient la place Tiananmen, cœur symbolique du pouvoir communiste. Un récit qui proviendrait de sources internes au Conseil d'État chinois et qui raconte comment les manifestants ont été taillés en pièces par les blindés de la 27e armée qui ont ensuite roulé sur les corps à de nombreuses reprises, faisant comme une patte de restes humains qu'ils ont ramassés au bulldozer. Le document parle également de restes humains incinérés et évacués au jet d'eau dans les égouts. Un témoignage terrifiant qui ressort 28 ans après les faits.
Correspondance à Londres, signée Marina Daras. La Chine, qui selon l'ONG américaine Freedom House, a la politique la plus restrictive au monde en matière d'Internet, devant l'Iran et la Syrie. Ce qui se confirme à lire l'agence de presse officielle du pays, Chine Nouvelle, agence qui annonce avoir fermé 13 000 sites Internet depuis 2015. Près de 10 millions de comptes Internet ont également été révoqués, encadrement drastique, via un système qui porte le nom de Grande Muraille Électronique et qui bloque aussi les réseaux sociaux occidentaux. La Corée du Nord réagit ce midi après l'adoption il y a deux jours par l'ONU d'un nouveau train de sanctions contre le pays. Le ministère des Affaires étrangères à Pyongyang dénonce un acte de guerre. Un an après son enlèvement au Mali par des hommes armés, les proches de la Française Sophie Pétronin sont toujours sans aucune nouvelle. Cette femme de 72 ans avait créé une association d'aide à l'enfance à Gao, au nord du pays. En juillet dernier, la branche d'Al-Qaïda au Mali avait revendiqué dans une vidéo cet enlèvement. On pouvait y voir l'humanitaire qui est aujourd'hui malade. Son neveu, Arnaud Granouillac, espère que 2018 permettra d'avoir un peu plus d'informations de la part du Quai d'Orsay.
On a des rendez-vous au Quai d'Orsay régulièrement, des contacts téléphoniques. Après, communiquer sur son enlèvement, et on peut pas dire qu'il y a grande communication. Non. Après, on a aucune info concrète sur son lieu de détention et son état de santé, surtout. Elle a 72 ans, donc elle a un cancer. Donc depuis la vidéo de revendication, on n'a aucune nouvelle.
Vous avez peut-être l'espoir aussi qu'il se dise des choses, qu'il se négocie des choses dont vous ne seriez pas au courant, justement, pour des raisons de secret défense. Parfois, on ne sait pas tout.
Oui, ça, on peut l'entendre. Mmh. Après, l'espoir, ça me nuise de jour en jour, parce que on se sent un peu abandonné. Puis la dernière sortie médiatique du président Macron, où il a insulté les terroristes, pour nous, on pense pas que ça va être d'une grande utilité pour elle, et ça risquerait de plus la desservir qu'autre chose. Quoi.
Emmanuel Macron avait dit, ouais, justement, ces ravisseurs ne sont rien, ils seront éradiqués. Ça vous inquiète? Ça peut vous donner l'impression qu'ils peuvent se radicaliser du coup davantage et peut-être se venger, ce qu'on ne souhaite évidemment absolument pas.
Et tout à fait. Après, c'est sûr que nous, ça a été des termes qui nous ont choqués. Je pense pas que ça facilite les négociations et que ça apaise les tensions surtout. Donc, on vit dans cette crainte-là, parce que c'est vrai que ces termes-là, je pense pas qu'ils ont dû être appréciés par les personnes qui retiennent ma tante.
Des propos recueillis par notre confrère de France Info, Matteo Maestracci. La SNCF reconnaît avoir rencontré des difficultés sur son réseau TER et Intercité. Affluence exceptionnelle hier au départ des gares de Paris-Bercy et de Paris-Austerlitz. Certains voyageurs n'ont pas pu accéder à leur train. Le directeur général adjoint du groupe SNCF assure qu'ils pourront se faire rembourser. En revanche, Mathias Vichra se défend des accusations de surréservation, soit le fait d'avoir vendu plus de places que le nombre disponible. L'heure est maintenant aux préparatifs de Noël partout en France et cette année, de nombreux bénévoles se sont manifestés pour aider les associations pour les fêtes. Le secrétaire général du Secours catholique, Bernard Thibault, s'est même étonné de l'accroissement du nombre de volontaires en 2017, d'autant plus que ces personnes sont très jeunes. Le Secours catholique organise ce soir un réveillon pour 600 personnes sur la Seine à Paris, des familles pauvres mais aussi des sans-abri et des migrants. Une zone d'ombre toutefois dans ce tableau solidaire, les dons sont en baisse depuis 2 ans selon l'association. Le sociologue Jean-Louis Laville nous explique ce paradoxe.
Les gens veulent être actifs avec d'autres, partager des moments et des actions, et c'est très différent du don. Le problème du don, c'est qu'il n'est pas homogène. Vous avez plusieurs sortes de dons. Il y a d'abord la philanthropie, et là on voit bien qu'en France, il y a moins de dons philanthropiques que dans d'autres pays, parce que finalement, ce qui explique la philanthropie, c'est avant tout la possibilité d'échapper à l'impôt, et donc les dispositions fiscales en France sont moins favorables à la philanthropie qu'elles ne le sont dans d'autres contextes. Et puis, au-delà de la philanthropie, disons, faite par de grandes organisations, de grandes entreprises, il y a les dons individuels. Or, les dons individuels, c'est très difficile de savoir ce qu'il en est aujourd'hui, parce que les gens sont de plus en plus sollicités. Ils sont sollicités par des associations, mais ils sont également sollicités dans la rue. Ils sont aussi sollicités par des formes de plus en plus variées de financement participatif. Donc, on a du mal aujourd'hui à savoir quel est le volume total des dons individuels. Et si vous voulez, on est dans ce paradoxe selon lequel il y a à la fois de plus en plus de gens qui s'engagent dans les associations, qui en sont membres, à peu près une personne sur trois de plus de 15 ans en France, et pourtant ces associations sont dans un goulot d'étranglement parce qu'il y a une diminution des financements publics et parce qu'il y a aussi des difficultés du point de vue des financements privés.
Jean-Louis Laville, sociologue au Conservatoire des Arts et Métiers, auteur de Mouvements sociaux et économie solidaire aux éditions DDB. Il était avec Eva Gennac. Benoît Hamon monte au créneau dans le journal du dimanche sur la politique du gouvernement en direction des migrants. L'ancien socialiste publie une tribune avec une vingtaine de membres de son mouvement Génération. Il conteste la nouvelle circulaire qui demande au préfet de recenser les migrants dans les centres d'hébergement d'urgence. Il est 12h40 sur France Culture, la face cachée du globe. C'est avec vous, Nabila Hamel. Bonjour.
Bonjour, Anne. Mission accomplie pour l'armée zimbabwéenne. Elle rentre progressivement dans ses casernes. Elle avait joué un rôle important dans la chute le 21 novembre de l'autocrate Robert Mugabe. Le régime n'a pas changé, mais le nouveau président Mnangagwa appelle les investisseurs étrangers à revenir au Zimbabwe et leur promet une économie transparente et débarrassée de la corruption. La lutte était âpre, mais malgré une remontée relative du parti du Congrès des Gandhi, les nationalistes du BJP ont conservé le contrôle de l'État indien du Gujarat. L'élection avait valeur de test, notamment pour le premier ministre indien Narendra Modi. Il est originaire de cet État de l'ouest du pays et devrait y briguer un second mandat lors des élections législatives de 2019. La guerre qui a éclaté en 2003 au Darfour entre les groupes rebelles locaux et Khartoum a fait 300 000 morts et poussé des millions de civils à fuir la région. Certains sont des déplacés internes et 650 000 Darfouriens vivent dans des pays voisins, au Tchad, dans l'instable Soudan du Sud et en République centrafricaine. Depuis peu, des réfugiés présents en Centrafrique tentent des retours au pays. Il s'agit de rapatriements librement consentis que le Haut Commissariat aux réfugiés accompagne, comme nous l'explique Céline Schmitt, porte-parole du HCR en France.
Depuis maintenant une dizaine de jours, 652 réfugiés ont quitté la République centrafricaine pour rentrer chez eux au Darfour. Le HCR facilite leur transport par des vols qui sont organisés pour qu'ils puissent tout d'abord être hébergés dans un centre de transit à Niala, donc la capitale de l'État du Sud Darfour, et ensuite pour qu'ils puissent retourner dans leur village d'origine à Dafak. Alors, les réfugiés qui ont exprimé leur volonté de rentrer chez eux, son nombre de 1500.
Vous parlez de rapatriement consenti de réfugiés du Darfour. Est-ce que la situation s'est améliorée dans cette province du Soudan ?
Alors oui, le retour volontaire des réfugiés s'explique par une amélioration progressive de la sécurité sur place, notamment suite à la signature d'accords de paix entre les responsables de certains groupes armés. Et donc, les réfugiés souhaitent rentrer. Le HCR se voit accorder la possibilité de faire le suivi de ces retours pour vérifier que tout se passe bien. Et évidemment, sur place aussi, un certain nombre d'acteurs sont mobilisés avec les autorités locales pour apporter une assistance aux rapatriés pour recommencer leur vie. Donc tout d'abord une assistance pour faire face aux premiers jours, premières semaines sur place, donc un paquet retour, mais aussi pour permettre un accès à la terre, un accès à de l'eau et permettre aux rapatriés de recommencer leur vie sur place.
Céline Schmitt, porte-parole du Haut Commissariat pour les réfugiés. Marcelo Odebrecht est sorti mardi de sa prison et purgera les 7 ans de peine qui lui restent en résidence surveillée. Il pourra profiter du confort de sa luxueuse villa de 3000 mètres carré avec piscine à Sao Paulo. Le patron du géant du bâtiment brésilien avait accepté de coopérer avec la justice brésilienne sur des affaires de pots de vin et de financement de campagnes électorales. Ce que l'on appelle aujourd'hui le scandale Odebrecht prend l'allure d'un séisme qui ébranle de plus en plus d'hommes politiques au Brésil et en Amérique latine où Eric Biegala, le président péruvien Kuczynski, a évité de peu la destitution jeudi.
Le président péruvien a bien failli être la première personnalité de tout premier plan, victime du scandale Odebrecht. L'opposition menée par Keiko Fujimori avait posé jeudi la question de sa démission pour, je cite, « inaptitude à gouverner ». Le géant du BTP brésilien aurait versé en effet près de 5 millions de dollars à des entreprises auxquelles le président était lié lorsqu'il était ministre de 2004 à 2013. Mais Pedro Pablo Kuczynski, PPK comme on le surnomme, au Pérou, a réussi à sauver sa tête lorsqu'il a appelé les parlementaires à éviter ce qu'il considère comme une tentative de coup d'État. Le vote n'a donc pas profité à l'opposition, dont la chef de file est elle-même soupçonnée d'avoir bénéficié de l'argent d'Odebrecht pour le financement de sa précédente campagne électorale en 2011. L'ex-président Ollanta Humala est lui en détention provisoire, pour les mêmes raisons. Un autre ancien président péruvien, Alejandro Toledo, est visé par un mandat d'arrêt et une demande d'extradition. Et tout ça, c'est pour le Pérou uniquement. En Équateur, c'est le vice-président Jorge Glass, détenu depuis octobre, qui a écopé il y a quelques jours d'une peine de 6 ans de réclusion pour avoir perçu 13 millions de dollars de pots de vin de la part de l'entreprise de BTP brésilienne. Le Mexique, le Panama, le Venezuela sont également touchés, sans compter le Brésil, bien sûr, pays d'où est partie l'opération Lavage Express. Plusieurs hauts responsables ont été visés dans ce pays, dont l'actuel président Temer et l'ancien président Lula da Silva, lequel espère pourtant se présenter à la présidentielle en 2018, et cela sans compter évidemment les ministres et les députés déjà touchés par le scandale.
Des textos pour dire « éteins la télé »,« qu'est-ce qu'il y a pour le dîner »,« peux-tu m'apporter une tasse de thé » ou Au lit, le Britannique en envoie quelques 10 000 par an à des membres de sa famille situés seulement à quelques mètres de lui. C'est du moins ce qu'a révélé jeudi une étude menée par un service de comparaison de fournisseurs d'Internet au Royaume-Uni. Ce sondage évoque plusieurs raisons. Des familles trouvent par exemple ludique le retour à la messagerie. D'autres ont ce comportement par paresse ou par souci d'éviter des sujets sensibles, surtout quand ils s'adressent à leurs enfants. Sans commentaire et à dimanche prochain.
Merci Nabila Hamel. La face cachée du globe est à retrouver sur notre site internet franceculture.fr. La météo de votre après-midi de ce dimanche 24 décembre, ciel couvert sur une grande moitié nord avec de la pluie dans les Hauts-de-France. De belles percées ensoleillées en Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes. Ciel lumineux également au bord de la Méditerranée et en Occitanie. Et les températures 6 à Lyon, 7 à Strasbourg et Bordeaux, 9 à Lille, 10 à Paris, 12 à Cherbourg. Journal préparé avec Martin Descloseaux. À la technique, c'était Jean-Guilain Meige.